Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. On va prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 1 à 7. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces instants. Merci Seigneur parce que bientôt nous te verrons face à face. Voir face à face, j'ai vu notre Sauveur, quelle grâce. Et Seigneur, merci. Merci pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous aimes tous d'une manière égale, parce que tu ne fais pas de favoritisme, parce que nous sommes tes bien-aimés, parce que tu es notre Père, mais aussi tu es notre Frère, tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre ami, comme nous l'avons chanté. Seigneur, merci encore parce que tu nous as donné une parole. Une parole, nous l'avons dit, qui est éternelle. Une parole qui nous guide, qui nous éclaire sur notre sentier. Seigneur, Père, bénis-la, s'il te plaît. Bénis-la à cause de Jésus-Christ. Fais du bien à nos cœurs, à chacun. Nous soyons stimulés dans notre vie chrétienne. Et au secours de la faiblesse humaine, Père, et bénis-nous à cause de Jésus. Nous te le demandons par grâce. Amen. Alors, dans notre texte ce matin, Paul va encore une fois, puisqu'on est dans cette épître, deuxième épître aux Corinthiens, va s'exposer. Il continue à se défendre contre ceux qu'il accusait, puisque c'est l'objet de sa lettre. Alors, il se présente, lui et ses frères, ses compagnons de combat. Et c'est comme s'il dit, voilà comment nous sommes. Qu'est-ce que vous avez à nous reprocher? Qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher? Et c'est difficile d'être accusé faussement. Mais ces hommes, Paul et ses compagnons, avaient leur intégrité pour eux-mêmes. Et en lisant ce passage, je me disais, c'est vrai que là, on voit Paul, encore une fois, d'une manière qui est exemplaire. Il se montre voilà, irréprochable en tout point. Il a une vie qui est exceptionnelle. Et nous, où en sommes-nous personnellement ? Et parfois, en regardant l'apôtre Paul, eh bien, on se sent quand même petit vis-à-vis de cette vie qui est voilà, brillante, éclatante, qui peut s'afficher en sainteté et en toute chose. Mais si c'est certain que c'est sûr qu'il y avait une grâce particulière, dans le sens où eh bien, Dieu a oint Paul, Dieu a voulu que Paul aussi soit un exemple pour nous. Et s'il est un exemple, eh bien, c'est parce que Dieu était avec lui. Il n'empêche que c'était quand même un homme de la même nature que nous, exactement comme nous. Et c'est intéressant de voir aussi que l'apôtre Paul, il y a tout un pan de sa vie, notamment les 3 premières années de sa vie chrétienne. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il est allé en Arabie, mais c'est tout. Et on imagine que durant ce temps, eh bien, c'était aussi un temps de sanctification. Dieu a pétri, a travaillé, a façonné son caractère. Et si bien que plusieurs années, eh bien, on le trouve voilà, serviteur fidèle, un marchand, saint, et il est un exemple pour nous. Ils sont un exemple, puisqu'il emploie à chaque fois le pronom personnel « nous ». À chaque fois, et à chaque fois qu'il y a un « nous » qu'il emploie, eh bien, on peut s'identifier aussi à eux, ou pas. Parfois, on ne s'identifie pas. Et dans tous les cas, c'est une remise en question sur nous-mêmes. Où en sommes-nous par rapport à ce que vivent et comment ils se décrivent? Verset 1, il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Où en sommes-nous ce matin? Est-ce que nous perdons courage? Paul ne perdait pas courage, et ses compagnons non plus, et c'est un premier point. On a tous un chemin de vie particulier et une attente particulière de Dieu vis-à-vis de ce qu'il nous confie. Et dès qu'on voit ce mot ministère, on a tendance à relier ça tout de suite à un service pastoral, quelque chose de grand. Et finalement, on peut se sentir un peu exclu de la responsabilité ou exclu en sorte que ça ne me concerne pas. Il est en train de parler de son ministère. Mais c'est intéressant de voir que le mot diaconia, c'est service, administration. Et si bien sûr l'apôtre avait un service, il avait une administration, à savoir c'était l'Église, voire les Églises, puisqu'il était dans son appel, il était pasteur, il était évangéliste, il était apôtre, il était docteur, donc il y avait toutes ces qualifications qui le reliaient à son service. Mais le mot diaconia, on peut l'utiliser aussi pour nous et pour chacun d'entre nous. On a tous un service, on a tous un diaconia. Il y a en Luc ce passage sur Marthe et Marie, et il est dit que Marthe était occupée aux soins domestiques. Et c'est intéressant de voir que le soin domestique, là, c'est le même mot. D'ailleurs, dans une autre traduction, c'est « Marthe était distraite par beaucoup de services ». Et parfois, notre ministère, notre service, notre administration, puisque c'est ça, eh bien, c'est de nous occuper de notre famille. Voilà. C'est ce que Dieu nous confie. C'est de nous occuper de notre conjoint. C'est de nous occuper de nos frères et sœurs aussi. C'est de nous occuper des gens qui sont autour de nous. Et parfois, il y a de quoi perdre courage dans notre service, dans notre administration. On peut vraiment perdre courage. Parce qu'il y a des luttes, il y a des difficultés, il y a de la fatigue, il y a de la répétition, parfois de l'ingratitude, des découragements. Plein de choses qui font qu'on perd courage. Dans la première lettre aux Corinthiens, je parle d'un autre passage, Paul parle de la famille de Stéphanas. Et il dit... la famille de Stéphanas s'est dévouée au service des saints. Et de nouveau, c'est le même mot. Et la famille s'est dévouée, elle a accueilli les saints, elle a pris soin des frères et sœurs de diverses manières. Et on aurait pu traduire, dévouée au ministère des saints. C'est pareil. Et donc, on voit qu'il y a un service, il y a un ministère, il y a un diaconia pour chacun d'entre nous, dans plein de sujets différents. Mais ce qui est souligné ici, c'est que Dieu nous fait une grâce en permettant qu'on ait un service et qu'on le serve d'une manière ou d'une autre. Et on peut en faire une application à chacun, quelle que soit notre administration ou notre service. Dieu, finalement, nous fait miséricorde afin que nous puissions le servir, quoi que nous fassions. Et si on marche avec Christ, eh bien, on est en train de le servir. Qu'on soit un employé, un employeur, une épouse... Ou un frère, ou un diacre, ou un pasteur. Voilà, on est en train de le servir d'une manière ou d'une autre, et Dieu veut qu'on le serve de tout notre cœur. Il est dit, servez Christ, le Seigneur. Et c'est pour ça aussi qu'on ne doit pas perdre courage, parce qu'on sert Jésus. Ensuite, verset 2, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors là, il nous donne quatre choses qui renvoient encore une fois à l'intégrité de ses serviteurs. D'abord, il dit, il rejetait les choses honteuses qui se font en secret. Donc Paul avait une vie qui était pure, une vie qui était sainte dans ses habitudes. On ne sait pas toutes les calomnies qui étaient dites à son sujet, mais sûrement qu'il y avait un bon lot. Et quand on veut salir quelqu'un, quand on veut dire du mal de quelqu'un, on peut en rajouter et en rajouter, c'est sûr. Mais il dit, ses serviteurs rejetaient les choses honteuses, et c'est une des caractéristiques d'un enfant de Dieu qui marche avec Jésus. Il va vouloir rejeter les choses honteuses, et le fait de mentionner ça, ça nous permet à chacun de faire un examen de conscience. Est-ce que nous aussi, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret? De tout temps, il a été possible de faire des choses honteuses, des choses qui se font en secret, des choses dont les hommes auront à rougir. Mais dans notre société, aujourd'hui, il y a toujours des choses dont on pourrait rougir si nous les pratiquons. rougir devant le tribunal de Christ. Alors, ce qui a été confessé, ce qui a été abandonné, Jésus-Christ ne reviendra pas dessus. Hein, il a payé justement pour ça, pour que, eh bien, il puisse pardonner et purifier nos cœurs du passé et du péché. Mais il y a parfois des choses cachées que nous n'abandonnons pas vraiment. Alors oui, on demande pardon, mais on recommence, hein, et on recommence encore, hein, et on recommence la semaine d'après ou dans l'heure qui suit. Paul dit « nous rejetons ». Et c'est intéressant encore de voir ce mot, il n'existe que ici dans la Bible, nulle part ailleurs. Enfin, je veux dire, dans la Bible, nulle part ailleurs. Bien sûr, dans la littérature grecque, il existe. Hein. Mais on sait que le sens n'est pas simplement de rejeter, mais c'est aussi de renoncer à. Il y a les deux sens. Il est traduit parfois dans ce sens-là, dans d'autres traductions. Et dans l'idée de se repentir, normalement, il y a l'idée de renoncer à. Et c'est vrai que parfois on renonce, hein, pardon, parfois on se repent, et la repentance c'est faire un demi-tour, hein, et après on se retourne de nouveau vers notre péché. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais dans le renoncement, c'est quand même plus fort, plus catégorique, c'est, voilà, on renonce. Par exemple, je renonce à faire ce voyage. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ce voyage. Un sportif se blesse, il renonce à sa carrière de sportif parce que c'est terminé. C'est terminé. Dans la Bible, il y a aussi cet exemple dans le livre de Ruth. Vous vous souvenez, il y avait cet homme qui avait le droit de rachat. Et puis Boaz va lui dire ce que ça a impliqué. Et là, il va dire, mais non, je renonce. À ce moment-là, Boaz va prendre Ruth sous son aile. Et c'est terminé. Il a renoncé, c'est terminé pour lui. Et l'idée de renoncer, c'est quelque chose de fort. C'est une décision où je renonce, c'est terminé. Je veux vraiment en finir avec ça. Et parfois, il faut faire un bilan sur sa vie. Et diagnostiquer ses propres faiblesses, tout ce qui ne nous fait pas du bien. Et parfois, vous savez, c'est pas grand-chose. Le péché, il entre souvent insidieusement dans notre vie. C'est pas forcément que on court vers le mal, c'est que on peut avoir des habitudes qui ouvrent la porte en fait au péché. Et comme on a cette habitude, ben voilà, la porte elle se réouvre encore, elle se réouvre encore. Qu'est-ce qui nous conduit à nous éloigner de Dieu? Essayez de réfléchir, mais quelle est la petite chose qui me conduit à m'éloigner de Dieu? Parfois, quand on analyse, on se dit, mais c'est parce que je fais ce pas-là qu'alors, eh bien, après, je fais le suivant. Si j'arrête de faire ce pas, alors je ne ferai pas non plus le suivant. Seigneur, délivre-moi de faire cette petite chose qui m'amène, après, à tomber ici ou là. Et à se retrouver dans une position qui est honteuse. Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. C'est dur. Ça ne veut pas dire que littéralement, bien sûr, il faille se couper la main. Mais l'image, elle est forte. Ça représente une décision qui est définitive. Je veux renoncer, c'est terminé. Je ne me servirai plus de ma main. Est-ce que nous aussi, on rejette les choses honteuses? Est-ce qu'on y renonce? Parfois, on renonce vraiment à quelque chose parce qu'on a peur du châtiment. C'est possible. Et j'ai déjà eu peur du châtiment et j'ai renoncé. Et c'est une bonne chose. Dieu est un Père, Dieu nous aime et il nous invite à renoncer. Renoncer. Parfois, on peut renoncer par amour. Simplement parce que l'amour pour le Seigneur domine, hein, est plus grand que l'amour que l'on peut avoir pour une pratique ou pour quelque chose. Parfois, on renonce de fait parce qu'on se dit, mais c'est vain, ça ne sert à rien, c'est vide. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Mais quelle que soit la manière, enfin, la raison pour laquelle on renonce, Dieu veut qu'on renonce. Qu'on renonce au péché et qu'on le serve, qu'on se consacre à lui. Ensuite, Paul dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et le terme est traduit ailleurs par ruse. Nous n'agissons pas avec ruse ou avec astuce, avec roublardise, être roublard. Alors ça fait référence encore, Paul renvoie ça par rapport à ces hommes qui le calomniaient, qui essayaient d'agir par ruse, ils essayaient de briser l'affection qu'il y avait entre les frères de Corinthe et l'apôtre Paul. Et voilà, ils cherchaient le moyen de le faire, un petit peu comme ce que Paul a dit à la Galatie, aux frères de Galatie. Il a dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Et donc, Paul se défend d'avoir un tel esprit ou d'avoir une telle attitude. Il n'agissait pas par ruse ou pour essayer de tromper. Et bien sûr, c'est quelque chose, une attitude qui ne devrait jamais être en nous, habiter en nous. Dieu ne veut pas qu'on fasse des calculs, mais il nous veut vrais, il nous veut transparents. En fait. Transparents, sincères. Et c'est quelque chose de vraiment précieux. Et je pense que c'est ça qu'on découvre quand on entre dans la vie chrétienne. C'est qu'on peut vivre transparent. Voilà, je suis ce que je suis. On m'aime pour ce que je suis. Et voilà, je peux même afficher des faiblesses. On ne va pas m'aimer moins. On m'aime pour ce que je suis. Et c'est quelque chose de précieux. C'est précieux de pouvoir se parler sans faux semblant. C'est précieux d'avoir confiance en l'autre parce qu'on a confiance qu'il dit la vérité. Si ça n'est pas, alors là, tout est faussé. Tout s'effondre. Et on peut se demander, mais pourquoi Paul dit une chose pareille? Est-ce que c'est seulement à cause de ces hommes qui le calomniaient et il veut simplement relever ça? Peut-être pas. Pour certains, ça peut paraître surprenant, voire complètement impossible d'avoir une attitude ou une conduite qui est astucieuse. Mais Paul va dire aux Thessaloniciens, ne mentez pas les uns aux autres. Donc si, c'est incroyable, on se dit, comment un chrétien peut-il mentir? Il est en train de parler à des chrétiens. Mais ça veut dire que parfois, il peut y avoir des faiblesses, des relents du passé qui nous poussent dans une mauvaise direction et qui amènent à ne plus être vraiment intègre et à voilà, louvoyer. Mais un chrétien qui marche avec le Seigneur, eh bien, il veut être droit, il veut être intègre, il veut être vrai, il veut afficher la vérité. C'est le serpent qui ruse. C'est pas la brebis, normalement. Puis Paul dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Certains traduisent par nous ne falsifions point la parole de Dieu. De nouveau, il est toujours sur ce sujet de l'intégrité. Et en fait, il dit, mais Paul et ses compagnons prêchaient la Bible d'une manière qui était claire, qui était limpide, qui était voilà, transparente. Ils n'essayaient pas de la détourner à leur profit. Parce que c'est très facile de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Jérémie dit que le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant. Et notre cœur peut jouer avec les Écritures, tordre les Écritures. On peut faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit ou ce qu'il ne nous a jamais dit. Parfois, nous, on lit la Bible, et puis on a envie de quelque chose, et puis voilà, on peut tomber sur le verset qui nous arrange bien. Et on se dit, voilà. Et on me dit, va, l'Éternel est avec toi. Et puis, on y va. Ça, c'est une certaine manière de falsifier, en quelque sorte, la parole de Dieu, on la détourne. Ensuite, on peut altérer ou falsifier en changeant ce que Dieu voulait dire ou à qui il voulait le dire. Par exemple, on peut prendre un verset et puis on va prendre un raccourci. Par exemple, on va lire dans Matthieu 24, 25, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On prend un raccourci, on se dit « Mais alors on peut perdre le salut. » Si quelqu'un n'est pas persévérant dans sa fidélité, il perd le salut. Alors que si on regarde tout le contexte, si on regarde à qui c'est dit, quand c'est dit, est-ce qu'il le dit ailleurs, qu'est-ce que disent les Écritures à ce sujet ailleurs, on commence à avoir une vision globale de la pensée de Dieu. Et on ne peut pas prendre ce raccourci. Ce n'est pas nous qui tenons la main de Dieu. Mais il dit, mes brebis sont dans ma main. C'est lui qui les tient. C'est lui qui nous tient. On peut aussi la falsifier carrément en lui faisant dire le contraire de ce qu'elle dit. Par exemple, en diminuant Jésus-Christ au rang d'une créature. Si vous mettez l'accent vraiment sur un verset qui parle de l'humanité de Christ, vous pouvez diminuer. Et puis vous faites abstraction de tout ce qui parle de sa divinité. Voilà. On est en train de falsifier, de tordre les Écritures. 2 Pierre 3, verset 16, je vous lis si vous ne l'avez pas. Il dit, C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et on peut tordre le sens des Écritures. Et c'est un danger, c'est un piège pour le cœur. Il y a une obligation d'intégrité quand on est devant la parole de Dieu. Pierre, ici, parle d'ignorance et du fait d'être mal affermi. Donc il y a deux choses. En premier, il y a un danger d'ignorance. C'est le fait, notamment, de ne pas vraiment lire, pas vraiment étudier la parole de Dieu. On peut picorer dans la parole de Dieu. On peut se contenter du verset de la bonne semence. Et voilà, on a eu notre nourriture. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose, hein, des Écritures. On a besoin de se nourrir, on a besoin de connaître ce que disent la Bible. On a besoin d'avoir une vision d'ensemble de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Pas faire abstraction d'un livre et avancer dans une lecture qui est sérieuse, assidue. Autant que ça nous est possible. Et puis, donc, il parle de l'ignorance et il parle du fait d'être mal affermi. Et ça, c'est un deuxième danger. Il y a la connaissance biblique et puis il y a la vie qu'on mène avec le Seigneur Jésus. Et si on ne développe pas une proximité, une dépendance de sa personne, une humilité devant lui, alors on peut toujours prendre la Bible et lui faire dire ce qu'elle nous dit. Parce que, ben, on n'est pas sensible à sa voix. Alors, eh bien, on prend au vol les choses, et puis ben, on se trompe. Comment dire, la Bible est une lampe à mes pieds, si on se contente de prendre un verset ou là, ici ou là. Le risque, c'est la ruine, il dit. Ils tordent le sens, et ils arrivent à leur ruine. C'est une réalité, la Bible éclaire nos pas, mais il faut la serrer dans notre cœur, et puis il faut entretenir cette relation. On retrouve l'idée, voilà, lecture, prière, les deux ingrédients qui sont vraiment importants pour notre vie chrétienne. Paul dit ensuite, « Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Verset 2. Un seul souci, la vérité. Le chrétien aime, le chrétien cherche la vérité. Et c'est tout d'abord être vrai, être transparent dans ses rapports avec les autres, puisque c'est tout le sujet, c'est ne pas se cacher, ne pas tordre, ne pas tromper, ne pas se tromper soi-même. Dans la troisième épître de Jean, il y a Jean qui dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et finalement, c'est la pensée de Dieu. Dieu se plaît quand on marche dans la vérité, quand on dit la vérité et quand on est vrai aussi avec les autres. Et Paul et ses compagnons, eh bien, pouvaient se recommander devant toute conscience d'homme. Vous pouvez s'afficher et dire, mais voilà, ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. Et on ne vous dit rien d'autre que ce que nous sommes. Et nous marchons dans la vérité. Tout était clair, tout était limpide. Et alors, eh bien, ça l'amène à rebondir. Versets 3 et 4, il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. » Qui est l'image de Dieu. Quand on prend tout ce passage, Paul dit en quelque sorte, nous, voilà, nous publions la vérité, nous disons la vérité, uniquement ce qui est écrit, et ce que Dieu a voulu exactement dire. Rien n'est caché, rien n'est dans l'ombre. Et si malgré tout, quelques-uns n'y comprennent rien, eh bien c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est ça. Et ça, c'est une autre réalité, c'est que le Dieu de ce siècle, le diable, aveugle l'intelligence et il les empêche de voir briller la splendeur de l'Évangile. Et en lisant cela, on voit encore une fois que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Et on voit que la majeure partie de notre combat, c'est dans la prière, c'est dans l'intercession. Comment faire pour que le voile se lève et qu'enfin, eh bien, ceux qui nous entourent voient Christ, qu'ils voient l'Évangile. Il faut une grâce particulière pour voir. Il faut que Dieu enlève l'aveuglement. Et comment ? Eh bien, prier. Et moi, ça m'encourage. Parce que bien que cela paraisse terrible, que le diable puisse aveugler les personnes qui sont autour de nous, je trouve que ça nous donne de l'espérance. Parce que Dieu est capable d'ôter le voile qui est autour de nous. Il peut, par sa puissance, ouvrir les yeux du cœur, les yeux spirituels, pour leur permettre de voir. Si on dit, par exemple, qu'une personne, elle a fait le choix de rejeter Dieu. Elle a bu, elle a entendu, elle a goûté, mais elle a fait le choix de rejeter Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais si on dit qu'une personne est aveuglée par le diable, c'est le diable qui l'empêche de voir la splendeur de l'Évangile. Ben là, ça laisse de l'espérance. Parce qu'on se dit, Seigneur, mais... voilà, ôte le voile, permets-lui de voir l'Évangile, permets-lui de voir Jésus-Christ. À ce moment-là, l'intercession, elle n'est pas vaine. Et c'est sûr que le diable aveugle autour de nous. Alors il faut prier, Seigneur, mais enlève, éclaire. Et puis on ajoute à cela le fait de prêcher Jésus-Christ. Regardez verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est un autre point dans la défense que Paul fait de son ministère, c'est qu'il n'a jamais eu de cesse que de prêcher Jésus-Christ. Il ne s'est pas prêché lui-même. Il n'a pas prêché pour établir une secte. Il n'a pas prêché pour essayer de rassembler, de se faire des disciples pour lui, pour être une sorte de gourou du passé. Il se mettait pas non plus en avant, comme si ben, lui, il avait reçu beaucoup plus d'illumination, beaucoup plus de révélation, et donc... Mais il n'avait qu'un désir, c'était que Jésus-Christ soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit suivi, qu'il soit aimé, qu'il soit adoré. Et lui, il se considère toujours comme le dernier des hommes. Il dit ailleurs, je n'ai pas eu d'autre pensée que de savoir parmi vous Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Mais comment savoir si c'était là vraiment l'attitude de Paul ? La preuve, c'est son attitude vis-à-vis des Corinthiens. Juste après, il dit, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et l'apôtre et ses compagnons étaient des serviteurs de l'Église, rien d'autre. Ce n'étaient pas des gens élevés qui demandaient à ce qu'on embrasse la bague, mais ils étaient en train de servir. Ils étaient toujours prêts à faire ce qu'il fallait, rendre service autant que c'était possible. Et le sujet de leur prédication, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est lui, le Seigneur, il le mentionne. C'est lui qui est élevé, c'est lui qui est digne d'être suivi. Et quelle que puisse être notre influence ou notre charisme, c'est toujours Christ qui doit être mis en avant. Paul ne voulait pas user de sa maturité ou sa grande connaissance comme quelque chose qui attirait vers lui-même. Et c'est facile, finalement, d'attirer vers soi quand on grandit dans le Seigneur et qu'on commence à avoir une certaine maturité ou une certaine sagesse ou une expérience. On peut donner des conseils et finalement, on peut rendre les gens dépendants de soi. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun soit dépendant de lui, que ce soit lui qui soit important. Il ne faut pas fidéliser les chrétiens à sa personne, mais fidéliser à Jésus-Christ, pousser vers Jésus-Christ. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est lui qui est le Seigneur, c'est à lui qu'il faut s'attacher, c'est lui qu'il faut consulter en premier. On va d'abord le consulter, on va d'abord lui demander. Je ne comprends pas Seigneur, je vais lui demander d'abord. Et si Dieu après, eh bien, va aussi qu'on apprenne, mais il veut nous enseigner aussi par les autres, eh bien, on peut après demander, mais on demande d'abord au Seigneur. C'est lui notre exemple, c'est lui notre modèle, c'est lui notre référent. Et c'est de lui dont on doit être dépendant. Et donc, un chrétien avancé, il va pointer vers Jésus-Christ, tout le temps pointer vers Jésus-Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul leur avait déjà dit, mais c'est ridicule de dire, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, ou d'un tel. C'est-à-dire, moi j'aime Jésus-Christ et je suis Jésus-Christ. Et s'il est notre Seigneur, alors, eh bien, on va se servir aussi les uns les autres, hein. C'est-à-dire, on va montrer, être derrière le Seigneur qui a montré un exemple en servant, eh bien, servir aussi nos frères et sœurs. Versets 6 et 7, hein, il dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et c'est en Genèse que Dieu a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres ». Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'était les ténèbres, ténèbres absolues. Le principe de la lumière n'avait pas été créé. Donc Dieu a créé la lumière au milieu des ténèbres. Et Paul s'en sert, il en fait une application à la présence des enfants de Dieu sur terre. Oui. Oui, 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 physique. Et on vit dans les ténèbres spirituelles. Si, ici, on se voit aujourd'hui, hein, mais c'est plutôt une éclipse durable. On est dans les ténèbres spirituelles parce qu'on est dans un monde de mensonges, on est dans un monde d'impiété, on est dans un monde de malhonnêteté, de coups bas, de ruses, de honte. Et Dieu nous a placés au milieu du monde afin de briller par sa lumière dans nos cœurs. Et parce que Christ vit en nous, alors la connaissance de la gloire de Dieu peut se manifester au travers de nos vies. Par des vies, comment ? Par des vies qui ne se découragent pas au milieu de l'adversité. Par des vies qui sont saintes, malgré un péché qui oppresse et qui domine. Par des vies qui sont droites, malgré un monde qui nous pousse à la malhonnêteté. Par des vies qui sont soumises et dépendantes de l'Écriture. Par des vies qui sont offertes, qui ne se servent pas à elles-mêmes, mais qui servent Christ et les autres. C'est comme ça que la lumière peut briller au sein des ténèbres, elle peut se manifester par des vies qui sont intègres. Et parce que Dieu est bon, il nous garde de tomber dans l'orgueil, il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et nous sommes des hommes, comme tous les autres hommes, nous sommes des vases de terre. Qu'est-ce que c'est un vase de terre ? Un vase de terre, d'abord, c'est terne, hein ? C'est pas éclatant. Un vase de terre, c'est fragile. Ça se casse facilement. Ça n'a pas une grande valeur. Ça ne coûte pas grand-chose. Et de l'extérieur, on ne voit rien à ce qu'il y a à l'intérieur. Personne ne se retourne dans la rue en disant « Ah, un chrétien !» Quand vous passez, « Un chrétien !» Non, personne. Parce que vous êtes des vases de terre, nous sommes des vases de terre. Et c'est bien le développement de la vie intérieure, notre cœur, hein, les vertus qu'on cultive en Christ et dans notre cœur, la vérité, la droiture, la sainteté, la pureté, la transparence, etc. C'est ça qui brille. Ça brille à l'intérieur. Finalement, c'est la présence et le caractère de Jésus qui est en nous. C'est ça qui brille. Et quand Jésus paraît, alors eh bien, la lumière brille au milieu des ténèbres. Et parce que de l'extérieur, nous sommes des vases de terre comme tous les hommes, rien de plus, rien de moins, alors la présence de cette lumière, elle ne laisse aucun doute sur son origine. Quand quelqu'un entrevoit la lumière qui est en vous, il vous voit vase de terre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'apôtre Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu se fait voir par Jésus-Christ qui est en nous. Il a mis son esprit en nous afin que la lumière brille, brille par l'amour, brille par la sainteté, brille par la vérité, brille par l'intégrité. Et si notre vase reçoit des coups, c'est vrai que des fois on reçoit des coups, hein, si notre vase est fêlé ici ou là, si c'est bien Christ qui brille en nous, alors eh bien, ça ne laissera passer que davantage de lumière. La lumière paraîtra encore plus. Et c'est ce qui s'est passé pour Christ. On l'a frappé, on l'a fouetté, on l'a flagellé, on l'a crucifié. Et qu'a-t-il répondu ? Quelle a été son attitude ? C'est encore plus de lumière qui a paru. Hein. Seigneur, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sa lumière a paru encore plus belle. Et c'est la même chose avec nous si on marche avec le Seigneur dans sa proximité. Les coups sur notre vase ne doivent faire paraître que davantage de lumière, au contraire, dans nos réactions, dans nos attitudes. C'est ce qui s'est passé pour Paul, pour ses compagnons. Ils ont été attaqués, accusés, calomniés. Il dit, c'est toute la suite, verset 8, hein, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, abattus, des coups, ils prenaient des coups. » Mais il y avait plus de lumière encore qui, voilà, qui sortait de leur vie. C'était le caractère de Christ qui se manifestait. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, on prend un coup, bénédiction. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. C'est la lumière qui sort. On verra la suite, versets 8 à 18, la prochaine fois.